Chemin de vie.
Chers auditeurs, l'heure d'écouter votre rubrique Chemin de vie est arrivée. Nous avons le plaisir de vous présenter cette étude systématique de la Bible chaque jour du lundi au vendredi à cette même heure. Au micro, Jean.
Ainsi que Heidi, de Daniel à la technique, et Jacques Yosti, notre commentateur. Quel est le programme aujourd'hui ?
Nous ouvrons aujourd'hui la seconde lettre écrite aux habitants de Thessalonique, et nous lirons les trois premiers versets. Les conseils donnés dans la première lettre semblent porter des fruits. En effet, l'apôtre Paul dit « Votre foi fait de magnifiques progrès, et l'amour fraternel porté aux uns et aux autres augmente. Le fruit mûrit. »
Laissons à Jacques Yosti le soin de nous le faire découvrir, juste après cette chanson de Lionel Salaveria, intitulée « Ils sont nombreux ».
La vie est pour certains comme un fleuve tranquille, où l'heure semble bien simple, rien n'est difficile. Aucun souci ne vient entraver leur chemin, mais qu'en sera-t-il pour eux demain ? Ils sont nombreux, ceux qui oublient Dieu, qui marchent seuls en fermant les yeux. Ils se disent même sans reprocher, sans peur, mais qu'en est-il vraiment de leur cœur ? L'avenir incertain des hommes d'aujourd'hui nous oblige à penser au vrai sens de la vie. D'où viens-tu? Où vas-tu? En quel homme crois-tu? Et quand sera-t-il pour toi demain? Ils sont nombreux, ceux qui oublient Dieu, qui marchent seuls en fermant les yeux. Ils se disent même sans reprocher, sans peur, mais qu'en est-il vraiment de leur cœur? Si tu oublies aussi qui t'a donné la vie, je t'invite aujourd'hui à réfléchir ainsi. Car Dieu veut que ta vie lui appartienne enfin. Réfléchis donc, que sera demain? Ils sont nombreux, ceux qui oublient Dieu, qui marchent seuls en fermant les yeux. Ils se disent même sans reprocher, sans peur, mais qu'en est-il vraiment de leur cœur? Tu trouveras en Dieu le vrai sens de ta vie. Il est encore temps de t'approcher de lui. Et si l'épreuve vient un jour sur ton chemin, tu seras sûr de ton lendemain. Fais-tu partie de ceux qui oublient Dieu, qui marchent seuls en fermant les yeux, devant le Fils de Dieu donnant sa vie pour eux? Ouvre tes yeux pour Jésus, fais-le.
Comment échapperais-tu, toi qui néglige un si grand salut qu'on eût su du Fils élu, laissant toute gloire? Pour toi il mourut, fouetté, insulté, il a résisté 3 jours dans la mort, ressuscité, monté au ciel, dans la félicité.
Il est la solution, la seule solution dans le malheur, crie à lui, fleur, lamente-toi, il te bénit. Tu as essayé les voyants, les médiums, l'alcool, la cigarette, ton opium, essaye avec Jésus, change la donne.
Depuis que le monde est, il t'a connu, pour toi il est ici de secours, il a pourvu. Face aux difficultés qui traversent ton entendement, lorsque la tempête arrive en grandissant, à chaque cri de ton cœur il entend
des soupirs inexprimables, il les ressent. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin de sauver les hommes si iniques. À ses yeux chaque âme est si unique.
Personne n'est juste, tous sont péchés, de la gloire de Dieu ils sont éloignés. À ses sens compromis d'être déchaînés, les plaisirs éphémères ne sont que vanité.
Ton âme s'insurge face à la platitude de ta vie, elle a besoin de quitter cette errance farcie. Le vide sonne et nuages sur ta vie trônent.
As-tu déjà connu la liberté?
Marcher libre sans aucune culpabilité.
Oh, puis viens chercher la liberté.
Sur la croix, Christ te l'a donné.
Mais dis-moi,
mais dis-moi,
fais-tu partie de ceux qui oublient Dieu, qui marche
On a coutume de dire qu'un homme averti en vaut deux. Ce n'est pas faux et explique pourquoi, de tout temps, les gens ont cherché à connaître l'avenir. C'est vrai que si je savais à quelle sauce je serais mangé, j'éviterais d'en avoir chez moi. Mais comment savoir ce qui va arriver? Il y a eu Nostradamus qui publia de nombreuses prédictions en quatrains sous forme d'énigmes, et aujourd'hui on a les diseuses de bonne aventure ou les cortomanciennes, et tous les jours dans son journal quotidien ou sur l'Internet, on peut lire son horoscope ou son thème astral. Mais est-ce bien la vérité? Au premier siècle de notre ère, les croyants étaient enseignés concernant les événements futurs de la fin des temps. Mais des faux prophètes répandaient de l'ivraie là où l'apôtre Paul avait semé du blé, ce qui provoquait des troubles graves dans les églises. Pour contrer ces malfaisants, Paul écrit une seconde fois aux Thessaloniciens. Nous sommes dans les années 51-52 de notre ère, et l'apôtre se trouve toujours à Corinthe en compagnie de Sylvain et Timothée qui avaient collaboré avec lui dans la fondation de l'Église. Plusieurs mois se sont écoulés depuis qu'il a rédigé la première épître. Bien qu'il n'ait pas pu leur rendre visite, Paul se tenait au courant de la situation des croyants de Thessalonique. C'est probablement le porteur de la première lettre qui, à son retour, lui avait apporté des nouvelles fraîches de la condition de l'Église. D'une façon générale, Paul était satisfait du progrès spirituel de ses croyants qui grandissaient en maturité et en nombre. Cependant, plusieurs problèmes demeuraient et avaient besoin de son attention. Tout d'abord, la persécution qui avait commencé alors qu'il était sur place semblait avoir empiré. L'apôtre encourage donc les Thessaloniciens à tenir ferme dans leur foi au Seigneur Jésus. En second lieu, et comme je l'ai dit, les faux apôtres avaient semé la zizanie en prêchant des fausses doctrines sur le retour du Christ. Ils avaient même contrefait une lettre supposée venir de l'apôtre Paul disant que le jour du Seigneur était déjà arrivé, et donc que les Thessaloniciens avaient manqué le rendez-vous de l'enlèvement de l'Église et subissaient le jugement du jour du Seigneur. À cause des souffrances que ces jeunes croyants expérimentaient, ces mensonges avaient trouvé un terrain propice. Paul les avait pourtant enseignés concernant la fin des temps alors qu'il était parmi eux, ainsi que dans sa première épître. Mais malgré tout, la confusion régnait et ces fausses doctrines causaient du trouble chez un certain nombre de croyants qui menaient une vie désordonnée à cause, semble-t-il, de leur incompréhension des événements futurs. Paul leur en avait déjà parlé dans sa première épître, mais le problème s'était encore aggravé. Il exigeait donc une réponse énergique de la part des responsables de l'Église. En effet, certains Thessaloniciens avaient cessé toute activité professionnelle et étaient devenus oisifs. Ils ne faisaient qu'attendre le retour du Seigneur d'une minute à l'autre tout en passant leur temps à se mêler des affaires des autres. Le monde a souvent connu des tragédies sans nom, des massacres terribles et des génocides à grande échelle. Beaucoup de chrétiens qui vivaient pendant ces épisodes sanglants croyaient traverser la grande tribulation. Ce fut le cas de ceux qui furent persécutés par l'Empire romain ou l'Inquisition ou de ceux qui habitaient Londres pendant la bataille d'Angleterre et qui, nuit après nuit, étaient bombardés par la Luftwaffe ou encore des Africains croyants qui, au Rwanda, subirent le conflit fratricide entre Hutus et Tutsis. Mais Jésus avait averti ses disciples disant qu'à ce moment-là, lors de la grande tribulation, la détresse sera plus terrible que tout ce qu'on a connu depuis le commencement du monde et jamais plus on ne verra pareille souffrance. Dans cette deuxième épître, l'apôtre Paul va donc mettre les points sur les i en précisant les événements qui précéderont le retour du Seigneur. Il y aura non seulement des persécutions contre les croyants, mais aussi l'apparition de faux prophètes, de l'Antéchrist, ainsi qu'un abandon quasi total de la foi. Lorsque Jésus était sur terre, il avait déjà dit ces choses. Je le cite. « Alors on vous persécutera et l'on vous mettra à mort. Toutes les nations vous haïront à cause de moi. À cause de cela, beaucoup abandonneront la foi. » Ils se trahiront et se haïront les uns les autres. De nombreux faux prophètes surgiront et ils tromperont beaucoup de gens. Quand donc vous verrez l'abominable profanation annoncée par le prophète Daniel s'établir dans le lieu saint, que celui qui lit comprenne. Si quelqu'un vous dit alors, « Voyez, le Christ est ici » ou « Il est là », ne le croyez pas. De faux Christ surgiront, ainsi que de faux prophètes. Ils produiront des signes extraordinaires et des prodiges au point de tromper, si c'était possible, ceux que Dieu a choisis. Fin de citation. À une autre occasion, Jésus a demandé à ses disciples, « Lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre ?» Or, en grec, la tournure de la phrase demande une réponse négative. C'était donc une autre façon pour le Seigneur de dire qu'à son retour, il y aura très peu de croyants. La situation sera alors semblable à ce qu'elle était au temps de Noé, où seulement 8 personnes furent épargnées par le jugement. Cette apostasie, ce rejet de la foi, est décrit dans le livre de l'Apocalypse, où on voit qu'après l'enlèvement de l'Église, la chrétienté existe toujours, mais n'est plus qu'une coquille vide, politisée et vendue à l'Antéchrist au point où l'apôtre Jean l'appelle la grande prostituée. La première épître aux Thessaloniciens met l'accent sur le retour de Jésus qui vient chercher les siens, un événement qu'on appelle l'enlèvement de l'Église. Cette rencontre ne se fera pas ici-bas, mais quelque part entre ciel et terre. Je rappelle le passage. « Nous qui serons restés en vie à ce moment-là, nous serons enlevés ensemble avec les morts ressuscités dans les nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Ainsi nous serons pour toujours avec le Seigneur. » Fin de citation. Dans la deuxième épître aux Thessaloniciens, Paul s'attarde sur le retour du Christ qui reviendra pour juger le monde et établir son royaume de 1000 ans sur terre. La période qui sépare l'enlèvement de l'Église de la deuxième venue du Christ s'appelle la tribulation et durera 7 ans. La seconde moitié de ce jugement est la grande tribulation parce que les châtiments seront d'une effroyable gravité. Comme je l'ai déjà dit, mais il est toujours bon de le rappeler, l'enlèvement de l'Église n'est pas un sujet qui apparaît dans l'Ancien Testament, parce que jusqu'à ce que l'apôtre Paul le révèle, c'était un mystère. Il faut en effet savoir que l'espérance des croyants de l'Ancienne Alliance était terrestre. Ils attendaient le Messie qui devait venir restaurer la royauté de David. Pour cette raison, et pour révéler son identité, Jésus a souvent utilisé l'expression « le royaume des cieux » qui est une référence à l'établissement de son règne et qui sera en quelque sorte la manifestation du ciel sur la terre. Ce qu'on appelle généralement le paradis n'est pas un lieu spécifique, mais désigne la présence de Jésus-Christ où qu'il se trouve, que ce soit dans les cieux en tant que fils de Dieu ou sur la terre comme roi des rois. Je commence maintenant à lire la deuxième épître de Paul aux Thessaloniciens. Paul, Sylvain et Timothée saluent l'Église dans la communion avec Dieu le Père et avec le Seigneur Jésus-Christ. Verset 1. Les épîtres aux Thessaloniciens sont les seuls où Paul ne se donne aucun titre. Il n'ajoute à son nom ni apôtre ni serviteur parce que aucun de ces braves croyants ne mettait en doute son statut d'apôtre, son intégrité ou son rôle dans le plan que Dieu avait pour eux. Ils savaient que Paul ne désirait que leur bien et parlait avec l'autorité divine. L'absence de titre donne à l'introduction à ces deux épîtres un ton intime, ce qui est tout à fait approprié pour une lettre qui se veut encourageante. Sylvain, aussi appelé Silas, était un fidèle collaborateur de Paul dans le ministère. Ces deux hommes étaient juifs d'origine, mais aussi citoyens romains. Silas était prophète et jouissait d'une grande estime parmi les premiers chrétiens, ce qui explique pourquoi les apôtres l'avaient choisi avec un autre émissaire pour faire connaître les décisions du concile de Jérusalem à l'église d'Antioche. Silas devint le compagnon de route de l'apôtre Paul après que ce dernier se soit séparé de Barnabas, l'équipier de son premier voyage missionnaire. Silas était aussi avec Paul dans les coups durs, en prison et dans le collimateur des Juifs incroyants qui les pourchassaient tous les deux. Timothée était le protégé et disciple de l'apôtre Paul, son fils dans la foi. Originaire de Lystre, en Asie mineure, aujourd'hui la Turquie, Timothée était le fils et petit-fils de femmes juives croyantes, mais son père était grec. Paul fit sa connaissance lors de son deuxième voyage missionnaire et le prit avec lui comme équipier. Plus jeune que Paul ou Sylvain, c'est-à-dire Silas, il devint le bras droit de l'apôtre qui l'envoyait à sa place partout pour le représenter. L'apôtre lui a écrit deux lettres que nous possédons et mentionne son nom dans 8 autres. L'orgueilleux pharisien arriviste, Saul de Tarse, était devenu l'humble apôtre Paul entièrement dévoué à la cause de Jésus-Christ. Il ne faisait plus cavalier seul afin de prendre toute la place sur scène. Il s'entourait au contraire de collaborateurs dans le but d'augmenter l'efficacité de son ministère et ainsi mieux servir son maître. Ces trois hommes, Paul, Sylvain et Timothée, avaient souffert ensemble et établi l'église de Thessalonique. Leur succès avait rempli de rage les Juifs incroyants qui soulevèrent la foule contre eux et les forcèrent à s'enfuir. Éventuellement, ils se retrouvèrent à Corinthe, d'où Paul écrivit la première, puis cette seconde épître. La ville de Thessalonique comptait au moins 200 000 habitants et était la capitale de la Macédoine, la partie nord de la Grèce. Grâce à son port, situé le long d'une des principales voies romaines, cette ville était un centre commercial très important de l'Empire. Dans le grec, l'introduction à la seconde épître est presque identique à celle de la première, sauf qu'au lieu de saluer l'Église en Dieu le Père, ici Paul dit en Dieu notre Père. L'apôtre écrit souvent que les croyants sont en Jésus-Christ ou en communion avec lui, mais c'est seulement aux Thessaloniciens qu'il ajoute qu'ils sont également en Dieu le Père. Ce détail était important pour eux parce qu'ils étaient sévèrement persécutés. Et cette mention leur rappelle que le Père se soucie de ses enfants qui sont outragés pour son nom. Si ceux qui ont placé leur foi en Jésus-Christ sont en lui et en Dieu, il n'est pas dit qu'ils sont en l'Esprit-Saint. Par contre, la troisième personne de la Trinité habite tous les vrais croyants. Sa présence leur permet de marcher en nouveauté de vie, de manifester la personne de Jésus et de témoigner dans leur foyer, dans leur quartier, à l'école, sur leur lieu de travail et partout où ils vont. Je continue avec le second verset du premier chapitre. « Que la grâce et la paix vous soient accordées par Dieu notre Père et par le Seigneur Jésus-Christ. » Verset 2. La grâce et la paix sont deux mots clés qui résument la bonne nouvelle de Jésus-Christ. En premier lieu vient la grâce, qui est un don immérité, un acte de bienveillance gratuit que le Seigneur manifeste aux pécheurs repentants. Dieu tend la perche à tout homme et celui qui la prend connaîtra alors la paix, qui en est la conséquence. Celui qui accepte la grâce de Dieu reçoit aussi la vie éternelle. Les deux vont de pair. Je lis un passage. « C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. » Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvre que vous auriez accompli. Personne n'a donc de raison de se vanter. Quand quelqu'un vient à Jésus-Christ en se reconnaissant pécheur, perdu, démuni, n'ayant absolument rien à lui offrir, mais recevant et acceptant tout de lui, il expérimente la grâce de Dieu. Jésus offre le salut, le don gratuit de Dieu est la vie éternelle. On ne peut pas travailler pour obtenir un don, car alors ce n'est plus un don, mais un dû, un salaire. Dieu n'a que faire de ceux qui viennent à lui avec un bagage, des rites ou des œuvres qu'on a soi-même déclarées bonnes. C'est aux idoles qu'on offre des présents, pas à Dieu. De la grâce découle la paix. C'est l'oreiller le plus doux qui soit et sur lequel on peut dormir sur ses deux oreilles du sommeil du juste. Cette paix avec Dieu vient du fait qu'on se sait en règle avec lui, ses fautes étant pardonnées et oubliées. La paix est d'origine surnaturelle. Elle vient de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Dans cet épître et ailleurs, l'apôtre met souvent en parallèle le Père et le Fils sans faire de commentaires, ce qui montre que dans sa pensée, ils étaient un et égaux. Pour Paul, il ne faisait aucun doute que le Christ était Dieu, la seconde personne de la Trinité, et c'est pour cette raison qu'il écrit que le croyant est uni à la fois au Fils et au Père, et que tous deux sont source de grâce et de paix. Jésus a dit aux Juifs incroyants, « Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent, je leur donne la vie éternelle, jamais elles ne périront et personne ne pourra les arracher de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous, et personne ne peut arracher qui que ce soit de la main de mon Père. Or, moi et le Père, nous ne sommes qu'un. » La main de Jésus et celle du Père ont la même fonction de préservation des croyants. L'enseignement de la parole de Dieu, comme quoi celui qui a foi en Jésus est uni au Dieu créateur et tout-puissant, à titre personnel, spirituellement et éternellement, est spécifique au christianisme. Selon le Nouveau Testament, tous ceux qui placent leur confiance en Jésus-Christ deviennent participants de la nature divine. Je continue le texte. « Nous devons toujours remercier Dieu à votre sujet, frères, et il est juste que nous le fassions. En effet, votre foi fait de magnifiques progrès et en chacun de vous, l'amour que vous portez les uns aux autres ne cesse d'augmenter. » Verset 3. Le mot traduit par « devons » signifie « avoir une dette ou une obligation ». Paul n'avait pas d'autre choix que de toujours remercier Dieu au sujet des Thessaloniciens. Dieu méritait toute sa gratitude parce que c'est uniquement par sa grâce que ses croyants grandissaient ainsi dans leur foi. Paul ne chante pas les louanges de ses croyants à cause de leur nombre, de leur popularité, de leur statut social, de leur belle musique sacrée ou du design du bâtiment dans lequel ils se rassemblaient. De toute façon, ce n'est qu'au IIIe siècle qu'on a commencé à construire des églises. Les Thessaloniciens ne possédaient rien de tout ça. Au contraire, ils étaient pauvres et pour la plupart issus de la classe la plus défavorisée, c'est-à-dire celle des esclaves. De plus, les premiers chrétiens étaient méprisés par la population et considérés comme des balayures, des rejets de la société romaine. Les responsables de l'Assemblée ne devaient certainement pas non plus faire la couverture du magazine Thessalonique Libre puisque leurs noms ne sont même pas mentionnés par l'apôtre Paul. Au début de la première épître, l'apôtre avait loué Dieu pour la foi des Thessaloniciens. Maintenant, il déborde d'actions de grâce parce que leur foi, dit littéralement le texte, augmentait au-delà de toute mesure. Ce progrès remarquable était dû aux persécutions qui balayent les hypocrites, mais qui affermissent la foi des véritables croyants. En effet, la détresse pousse ces derniers à davantage se confier en Dieu et à s'attendre en lui. Je lis un passage. « Mes frères, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux ?» Car vous le savez, la mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance. Mais il faut que votre endurance aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire pour que vous parveniez à l'état d'adulte et soyez plein de force, des hommes auxquels il ne manque rien. » Fin de citation. Dans la première épître, Paul loue les Thessaloniciens pour l'amour qu'ils manifestaient, ce qui ne l'a pas empêché de prier disant « Que le Seigneur vous remplisse jusqu'à en déborder d'amour les uns pour les autres et envers tous les hommes, à l'exemple de l'amour que nous vous portons. » De toute évidence, Dieu a répondu à la prière de l'apôtre. L'amour chrétien n'est pas une émotion furtive, mais une action concrète envers autrui qui peut conduire au sacrifice de soi, surtout vis-à-vis des autres croyants. Jésus a dit à ses disciples, « Je vous donne un commandement nouveau. » Aimez-vous les uns les autres. Oui, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. » Comment Jésus nous a-t-il aimés? Dans un évangile est écrit qu'il donna aux siens qu'il aimait et qui étaient dans le monde une marque suprême de son amour pour eux. Il commença à laver les pieds de ses disciples, puis à les essuyer avec la serviette qu'il s'était nouée autour de la taille. Le lendemain, Jésus donnait sa vie pour eux et pour nous sur la croix. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. La marque de l'amour, c'est le don de soi.
Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible et même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Quand mon cœur était plein d'amertume, je perdais la raison et je n'y voyais plus rien. Mais Dieu seul pour me saisir la main, Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de je me sens bien. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Près de toi, je me sens bien. Près de toi, je me sens bien.
Laurent Fabregue nous a interprété ce titre « Je n'ai que toi ».
Avant de nous quitter, nous vous rappelons nos coordonnées. Notre site internet, chemindevie.info, chemins au pluriel et le tout en un seul mot, chemindevie.info, sur lequel se trouve la rubrique de ce jour et les précédentes.
Si vous avez une demande ou une question, nous restons à votre écoute sur notre ligne téléphonique pendant les heures de bureau. 0820 200 628, c'est un numéro indigo. 0820 200 628.
Ne manquez pas la suite demain. Au revoir.
À demain.